9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est qu'un jour l'imam il va me rendre fou. Je vous jure, je vais devenir fou un jour. J'aurais peut-être un ulcère à l'estomac avant que vous me rendiez fou.
Mais je suis arrivé à l'heure.
Ah bah oui, 15 secondes avant, c'est...
Non, pas 15 minutes.
Qu'est-ce qu'on va faire de vous, Imam Delal Imamoun?
Écoute, on va essayer de me recycler, parce que c'est important, l'écologie, c'est important.
C'est pas possible, on peut pas vous recycler. Je connais pas encore le
processus. On arrive à faire ça avec du carton, avec plein de choses. Et toi, t'as des problèmes avec un imam comme moi.
À recycler.
T'abuses là.
Ou en Pologne, ils font des trucs pas mal, ils recyclent pas mal de choses.
Ah, excusez-moi d'interférer dans la discussion, mais je ne pense pas que Cheikh Abdel Mamoun soit recyclable. Mashallah, ils ont pas encore fait l'étude nécessaire pour comprendre par quelle méthode on pourrait éventuellement le recycler.
Voilà.
Tout comme moi d'ailleurs.
Ouais, mais on aura peut-être un prix Nobel de médecine.
Non, parce que les prix Nobel, non. Selon Docteur Delabo hier, eh bien, le prix Nobel de médecine dit des bêtises. Donc, je le remercie d'ailleurs pour les conseils diététiques qu'il souhaite me prodiguer, pour une perte de 40 kilos selon, donc, 40 kilos. Je pense qu'à 40 kilos, première tempête, je vole. Voilà.
Non, il en restera un peu.
Pas beaucoup.
Mais.
Parce que les os sont lourds.
Tu sais quoi? On devrait faire
un challenge
qu'on filmerait, tu vois,
est-ce que au moment où on filme, c'est-à-dire au début, parce que c'est important par rapport à l'imam pour savoir si on est dans le cadre de la religion, est-ce qu'on est en maillot de bain quand on nous filme ou on est habillé en abaya?
Je pense que
pour le challenge pour maigrir, tu vois.
Je pense que si tu restes en djellaba, on verra rien.
Donc,
c'est Angelaba moulante.
Bon, évidemment, ça reste de l'humour. En tout cas, bonne émission à vous. Le mec qui a vraiment, qui a cassé un peu le concept de l'émission. Bonne émission à tout le monde.
Non, ceci dit, si y a 40 kilos à perdre, elle peut mouler. Bon, on en parlera plus tard. Alors, Imam Abdelali, d'abord, bonjour.
Bienvenue. Bonjour Philippe, salam alaikum, on va revenir aux choses sérieuses.
Je sais pas si on va être sérieux puisque la première question que nous abordons ce matin est une question qui fâche. Peut-on prétendre être en conformité avec les préceptes de l'islam et choisir d'être végane ou végétarien?
Ah, machallah, très bonne question et effectivement qui pourrait fâcher certains parce qu'aujourd'hui c'est tout un débat autour de la question des conditions d'élevage et de tout ce qui relève de l'écologie. La protection de l'environnement qu'entame fortement l'élevage des animaux, puisqu'on sait que même les vaches et tout ça, aujourd'hui, elles provoquent aussi contribuent énormément à la dégradation de la couche d'ozone, on le sait. Bon, ça, c'est tout un débat, mais bon, à la kulli hal, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que, islamiquement parlant, j'ai le droit de dire que je veux me priver de quelque chose que Dieu a rendu halal juste pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla dans un but de plaire à Dieu dans une démarche d'ascétisme, d'austérité. D'austérité, c'est-à-dire de zuhd ani dunya, etc. Amtani'u an akli al-lahm min ajli at-tawarru' min ajli at-taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Al-jawab, la réponse est non, on n'a pas le droit, Philippe, de s'interdire ce qui est licite en islam avec l'intention de se rapprocher de Dieu. Dieu dans le Coran est clair. Par exemple, je citerai sourate Al-Ma'ida, verset 87, où Dieu dit « Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas, Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. » Donc, il les a même associés à une forme de transgression que de rendre illicite ce qui est licite. De la même manière que rendre licite ce qui ne l'est pas, c'est une autre manière de transgresser. C'est rendre halal ce qui n'est pas halal, de dire par exemple le porc c'est halal, c'est une transgression. Mais de la même manière que de dire le mouton c'est haram, c'est une transgression. Donc ce qui est halal par Dieu est halal, ce qui est haram par Dieu est haram. Donc on ne peut pas s'amuser à rendre licite ce qui ne l'est pas et inversement.
D'accord, sur ce plan-là, oui, mais aujourd'hui les défenseurs de cette cause et qui veulent se priver de viande disent que ils condamnent aussi beaucoup les conditions d'élevage actuelles qui elles peut-être on peut se poser la question sur de la halalité de aujourd'hui quand vous voyez l'élevage de poulets en batterie, est-ce qu'on peut dire que ces conditions d'élevage elles relèvent d'un côté halal?
Alors dire que moi je vais me priver de toute la viande, sous prétexte que la majorité de l'industrie de la viande ou de tout ce qui relève de l'industrie des animaux, c'est-à-dire de l'élevage des animaux, est fait dans des conditions très peu respectueuses de ces animaux-là, est-ce que j'ai le droit de le faire dans une démarche militante pour protéger les animaux des conditions que Dieu, effectivement, lui aussi, a garanti. Dieu a garanti que l'on respecte les animaux et que les animaux doivent être élevés dans de bonnes conditions et non pas aujourd'hui comme ça se fait avec les volailles, on les élève dans des cages ouais. extrêmement exiguës où l'animal est obligé de pondre, on l'oblige à pondre, c'est de l'industrialisation à grande échelle de ces procédés où l'animal souffre le martyr tout au long de son existence et tout au long du moment où est-ce qu'il est dans ces cages-là. Et donc c'est horrible que nous derrière nous soyons ceux qui demandons, parce que s'il n'y a pas ces consommateurs pour demander avec ces prix-là qui peuvent effectivement battre la concurrence, et donc, parce que c'est une démarche de concurrence entre...
C'est une guerre de prix, c'est vrai.
Une guerre des prix, voilà. C'est la guerre des prix. Donc on veut rentabiliser au maximum ces animaux-là. Donc on va les piquer, on va leur donner des produits chimiques pour pas qu'ils meurent, pour pas qu'il y ait de
qui développent des maladies,
qui développent des maladies, etc. Donc tout cela, bien sûr, est particulièrement détestable aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, et que il est demandé aux musulmans en général, en tant que citoyens de ce monde, de faire partie de cette action, de ce combat contre la maltraitance des animaux. Et donc, oui, si moi, je me dis, je vais plus consommer votre viande tant qu'elle n'est pas bien élevée, tant qu'elle n'est pas produite d'une façon humaine et respectueuse de leur existence, je ne mangerai plus. Eh bien, oui, vous avez le droit de le faire. L'islam n'interdit pas, mais c'est pas de dire Dieu interdit la viande et qu'elle elle devient haram parce que l'animal a été mal élevé ou mal entretenu ou a été piqué ou je ne sais quoi. Non, la viande reste halal à partir du moment où elle a été abattue dans des conditions conformes aux préceptes de l'islam. Mais bien sûr, le consommateur a le droit de s'interdire malgré tout de consommer. C'est comme on va dire on va boycotter tel et tel produit parce que par exemple Made in China. Aujourd'hui, je veux m'interdire Made in China parce que la Chine est à l'origine d'emprisonnement de millions de Ouïghours dans une région de Chine. Est-ce que j'ai le droit de m'interdire les produits chinois? Oui, bien sûr. Tu as le droit de militer pour protéger, dans un but de faire pression, c'est une pression comme une autre, de faire une pression économique. Si tout le monde s'associe, effectivement, on peut avoir des résultats. Mais dire que non, c'est la religion qui dit que c'est halal ou c'est la religion qui dit que ça c'est haram, eh bien là, on n'a pas le droit, on ne peut pas faire ça.
Les véganes qui sont quand même des militants et qui font une forme de prosélytisme puisqu'ils essayent de faire avancer leurs idées.
Le problème c'est que chez le végan, même si l'animal est élevé dans de bonnes conditions, qu'on lui dit par exemple des œufs qui ont été pondus en plein air, des bio en plus. Il y a aujourd'hui sur le marché des produits bio. Bio, c'est-à-dire la poule, elle a été élevée en plein air. Elle a pondu en plein air, elle n'a jamais été persécutée, on lui a pas mis de produits chimiques, elle a pondu ses œufs normalement, et là le vegan il dit non. Pourquoi non? Elle a dit non. Pourquoi ce non-là? Là il y a quelque chose d'autre là. Il y a une conviction qui est différente, qui veut m'interdire quelque chose que Dieu m'a rendu licite sans aucune raison valable. Là je vois pas l'intérêt. Le vegan qui dit moi je veux protéger l'environnement, il est où la protection de l'environnement quand il va même s'interdire des œufs qui ont été élevés en plein air et de manière biologique? Pourquoi? Pourquoi le vegan reste vegan à ce moment-là? Ou bien il y a une autre conviction qui est derrière, que de considérer que ces œufs-là ou ces poules qui ont été élevées de cette manière-là ne sont pas halal. Eh bien là, effectivement, il aura rendu illicite ce que Dieu a rendu licite. Et là, effectivement, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas être végane jusqu'à ce point-là.
On ne peut pas être végane et musulman, c'est ça?
On ne peut pas la conviction. D'être végane avec. Je ne sais pas parce que le détail, qu'est-ce qu'il y a derrière? Cette idée de dire même l'animal qui a bien été élevé et que l'œuf a été pondu dans de bonnes conditions, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. Eh bien, le végan va dire non. Là, effectivement, oui, on ne peut pas être végan. Ce genre de véganisme et l'islam ne sont pas compatibles. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, militer pour aujourd'hui combattre les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux qui produisent à grande échelle dans des conditions désastreuses. Au nom de ce sacro-saint prix du produit, du kilo, etc., ou est-ce qu'on va essayer de tirer la barre le plus vers le bas pour essayer d'être dans la concurrence du marché? Eh bien là, je suis désolé, effectivement, on a le droit de se priver de ce genre de nourriture, d'abord parce qu'elle est malsaine, elle est mauvaise pour la santé. On sait très bien que les animaux qui ont été piqués, bourrés de produits chimiques, etc., eh bien, c'est pas bon pour la santé. Et donc, Dieu, effectivement, a autorisé ce qui était bon pour le corps et interdit ce qui était nuisible pour le corps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, là aussi, une manière, on pourrait dire, non, effectivement, à partir du moment où il y a une nuisance pour le corps humain qui est avérée, eh bien, on pourrait avoir le courage et de dire que maintenant, c'est pas halal. Cette viande-là n'est pas halal puisque elle est bourrée de produits chimiques, elle est dangereuse pour le corps humain, donc à partir du moment où il y a un danger avéré, elle n'est pas autorisée.
Mais est-ce que finalement on a le droit de manger ce qu'on veut? Si je suis végane, par exemple, parce que j'aime pas le goût de la viande, et que je mange pas d'œufs parce que j'aime pas les œufs, est-ce que j'ai le droit?
Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Je disais bien que s'il s'agit d'un goût, d'un choix personnel, lié à des goûts, et les goûts et les couleurs, ça se discute pas, Philippe, comme on dit.
Là, il y a toute liberté.
Oui, là, là-dessus, il y a toute liberté. Mais à partir du moment où on dit non, moi je me prive, pour des raisons de conviction qui n'ont rien à voir avec la manière d'élever l'animal, où il n'y a pas de militantisme qui associe à cela, là on est dans la transgression de la volonté divine de rendre illicite ce qui ne l'est pas, de rendre interdit ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui est seulement proscrit en islam. Si les intentions sont autres, eh bien oui, tout à fait, militantisme, si l'intention c'est de protéger les animaux, parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais par contre, de dire que non, Dieu n'a pas, Dieu ne peut pas autoriser aux êtres humains d'exploiter les animaux parce que ce sont des créatures comme les êtres humains et qu'ils ont les mêmes droits que les êtres humains, la réponse est non. Non, Dieu a mis à la disposition de l'homme toutes ces créatures-là pour qu'il en jouisse de ses avantages. Par exemple, il va tondre les bêtes pour prendre la laine, il va exploiter la peau des animaux après les avoir égorgés. Et après les avoir consommés, il va utiliser leur peau. Donc on va utiliser les animaux et la peau des animaux et tout ce qui relève des animaux pour fabriquer avec ce qu'on a besoin dans la vie. Par exemple, les crèmes, on a besoin de graisse animale pour fabriquer des crèmes ou je ne sais quoi. Eh bien, tout cela, bien sûr, est halal, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire non sous prétexte que les animaux, il faut respecter, ils ont une âme. Les animaux en islam, ils n'ont pas d'âme. Ce sont, comme je le répète,
pour les crèmes, enfin en tout cas pour tous les produits de beauté, la question c'est de savoir si est-ce qu'on a le droit de faire des expérimentations sur les animaux. On en revient là-dessus.
Des expérimentations?
Oui.
Bah ça dépend de quel genre d'expérimentation. S'il s'agit de les charcuter, de les torturer à vif pour savoir juste comment ils vont réagir, effectivement, là on est dans une démarche qui est purement malsaine et méchante, gratuite. Il y a une méchanceté gratuite. Mais si il y a une démarche véritablement scientifique qui est menée par des scientifiques qui utilisent qui respectent une déontologie, qui respectent une morale dans laquelle ils respectent l'animal. Là, il n'y a aucun problème, puisqu'il s'agit derrière ça de rendre service à l'homme et d'utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition pour servir l'homme. Hein, on a besoin de crème pour se protéger du froid, ben pourquoi pas. S'il faut faire des expériences sur des animaux pour voir comment réagit la peau de l'animal, etc. Eh bien, s'il faut le faire, ben on le fait. Il n'y a pas de problème. Je dis bien dans le respect des règles déontologiques et de la morale et du bien-être de l'animal. Donc voilà, tout cela doit être pris en compte, mais je répète que toutes ces créatures-là, qui sont mises, la faune et la flore, ont été créées pour l'homme. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que l'homme, de ce fait, doit, dès qu'il y a une génération aujourd'hui qui est capable de tout détruire, elle détruit tout, elle laisse rien à la génération suivante. Il faut respecter l'environnement, il faut respecter la chaîne alimentaire, il faut respecter tout. Par exemple, aujourd'hui, il y a une race d'animaux qui sont indispensables à la propagation de la flore qu'on appelle les abeilles. Et ces abeilles-là sont en train d'être décimées par l'industrie parce qu'ils utilisent des insecticides extrêmement violents, tout sous prétexte qu'ils souhaitent, à travers cela, produire encore plus de blé, etc., et de céréales. Et malheureusement, tout cela est au détriment de ces animaux-là qui sont nécessaires à la biodiversité, à la protection de la faune et la flore. Donc voilà, tout cela, c'est un travail qui relève, à mon avis, de décisions gouvernementales, qu'on appelle en arabe l'ahkam sultaniya, qui relève des lois et des décisions qui doivent être prises par les dirigeants, et non pas du citoyen lambda, mais qui, lui, bien sûr, doit faire pression, tirer la sonnette d'alarme pour se mobiliser collectivement, parce que la démarche doit être d'abord populaire pour dire attention, il y a un danger, on met en danger les générations futures. Peut-être que nous on n'aura pas ce problème-là, mais d'ici deux ou trois générations, il n'y aura plus rien sur la terre. Toute la terre deviendra un désert parce que on n'aura plus le respect de, il y aura des, voilà, une interruption de la chaîne alimentaire qui provoquera la désertification de notre planète. Et donc là-dessus, il faut bien sûr être vigilant pour protéger notre faune et notre flore.
Alors,
un musulman est un écologiste.
Alors, dans un instant, Imam Abdelali, vous vous intéressez à une profession, comme chaque semaine, job éthique, et aujourd'hui nous nous intéressons aux bouchers et à tous ceux qui travaillent la viande animale. Vous pourrez bien sûr intervenir tout à l'heure au standard en direct et poser vos questions à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Imam Abdelali, donc vous vous intéressez aujourd'hui aux bouchers et à tous ceux qui travaillent la viande. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit dire et quelle est l'éthique du boucher ?
Alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle. On parle de la viande blanche et de la viande rouge d'animaux terrestres. Puisque en islam, on sait que toutes les viandes qui sont issues de la mer sont halal. Le prophète dit dans un hadith, « Al-hillu maytato ». Qu'elle ait des écailles ou pas d'écailles selon des avis chiites et compagnie, tout ça là, pour nous, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où l'animal est un animal qui vient de l'eau, où il y a un lien avec de l'eau, il est halal. D'accord ? Tout ce qui est de l'bhar, de la mer, est halal. Maintenant, on parle de la viande rouge, la viande blanche, la viande d'animaux qui sont terrestres. Là, effectivement, il y a des règles à respecter. Puisque en islam, l'obligation, c'est que l'animal doit être débarrassé de son sang et au moment où est-ce que l'animal est encore vivant, et il doit mourir par hémorragie externe suite au sectionnement de ses veines jugulaires qui se trouvent au niveau de son cou. C'est-à-dire, on appelle ça l'égorgement. Égorger un animal est donc une condition sine qua non à rendre licite l'animal. Et bien sûr, il faut que l'animal soit vivant au moment où est-ce qu'il est égorgé. Voilà la condition. Et il faut que les deux veines jugulaires soient sectionnées au même moment, avec le même geste. On ne peut pas couper une veine jugulaire à droite, puis relever le couteau, et puis reprendre à obtenir le même couteau. Après avoir commis une erreur, on remet le couteau. Si ça a été raté la première fois, c'est raté. Donc on ne peut pas s'amuser à procéder en deux fois. Il faut que les deux veines jugulaires de la droite et de la gauche du cou soient sectionnées au même moment, alors que le cœur est encore en train de battre. Et on parle bien sûr d'animaux qui sont licites. De quoi on parle ? On parle de tous les animaux, pratiquement presque tous les animaux végétariens. Donc les animaux qui ont des sabots, etc. Comment on appelle ça le truc de chèvre là ?
Des sabots ?
Oui, c'est des sabots. Il y a ceux qui sont fêlés et ceux qui sont en un seul bloc. Eh bien, tous ces animaux sont halal, à part l'âne, où est-ce qu'effectivement une majorité de savants interdisent la consommation de la viande de l'âne. Et aussi la viande de cheval, il y a aussi une divergence où une majorité considère que c'est déconseillé. Voilà concernant la viande, ces viandes-là. Mais la majorité des savants considère que la viande de cheval est halal si elle a été, bien sûr, si l'animal a été égorgé dans de bonnes conditions. Voilà pour ne pas m'étaler sur les différents avis en la matière. Mais maintenant, donc, à partir de là, chaque consommateur est invité à s'assurer que la confiance qu'il a donnée à son distributeur, celui chez qui il va acheter sa viande, eh bien, se fournisse auprès d'organismes qui contrôlent l'abattage rituel et qui effectivement ont des viandes qui ont bien été égorgées conformément aux préceptes du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres vont plus loin pour parler d'élevage, etc. Nous, ce caractère-là, on ne peut pas le prendre en compte de manière juridique, mais on peut l'évoquer d'un point de vue moral. Donc d'un point de vue akhlaq, d'un point de vue taqwa, d'un point de vue piété, on peut effectivement parler de cette manière d'élever l'animal, ou même des conditions comment l'animal est apporté, par exemple le fait qu'on utilise des lames qui ne sont pas bien aiguisées, ou que l'on montre les lames aux animaux qui vont être égorgés, là aussi c'est pas bien. Il faut cacher la lame jusqu'à la dernière seconde pour l'égorger sans qu'il se rende compte qu'il va être tué. Et donc tout cela ça fait partie du respect de l'animal qui relève des règles de moralité et non pas des règles juridiques qui rendent ou non la viande halal. Ce qui rend la viande halal, c'est le fait qu'il soit tué alors que le cœur bat et par l'égorgement de, au niveau de la gorge et le sectionnement de ces deux veines jugulaires. Nous avons avec nous, si tu veux bien, Philippe. Hein,
Non,
tu veux pas ?
Non, je peux
pas. Écoute, je te laisserai toi-même.
Si vous me posez la question, allez-y, allez-y, Abdelali.
Bah, on a un spécialiste en la matière, en plus que, qui est celui qui a construit et élaboré la distribution, une des plus grandes chaînes de distribution de la viande halal en Angleterre, qui s'appelle le frère Mohamed Ben Khalifa, que l'on a avec nous là à l'antenne, et qui effectivement a des choses à nous dire sur la question. Donc voilà, on lui souhaite d'abord la bienvenue. Salamu alaikum, akhi Mohamed. Allô, salamu alaikum. Cheikh Mohamed, donc en plus c'est un imam et un théologien, hein. il a étudié à l'université islamique du Pakistan. Oui, allô, Cheikh Mohamed, on vous entend pas.
Ah oui, c'est moi qui... T'as du son, toi ?
Non, on n'a pas de son, on l'entend pas.
On entend pas.
Alors, Cheikh Mohamed...
On vous entend pas, Cheikh Mohamed, peut-être tu as mis le micro sous silencieux, ou là ?
Alors, on essaie de le récupérer, voilà. Ah, ça se passe en direct, hein, imam Abdelhak.
Ah bah écoute...
Bon, on essaie de le rejoindre.
De rappeler, voilà. Bon bah écoute, c'est pas grave, je te laisse poser des questions, toi, Philippe, comme ça on va pouvoir développer.
Alors, Imam Abdelali, moi la question c'est, parce que là vous parlez d'abattage, mais finalement, le boucher aujourd'hui, c'est aussi un distributeur, il abat pas forcément les viandes qu'il distribue.
Non, rarement, rarement même.
Rarement, donc en fait pas... le boucher, c'est un
lui,
commerçant.
Lui il va se fournir auprès
voilà,
de grossistes.
Il se fournit, donc moi finalement le contact que j'ai quand je vais acheter ma viande, c'est le contact que j'ai avec mon boucher, et je suis obligé de lui faire confiance.
Oui, bah effectivement, donc il est important de faire confiance à un boucher dont nous avons la garantie de sa piété, de sa rigueur, parce qu'il y a beaucoup de bouchers, malheureusement, qui sont très peu scrupuleux et soucieux de distribuer de la viande halal, parce que leur degré de piété n'est pas au rendez-vous pour les empêcher de vendre de viande avec laxisme, des viandes qui ne sont pas halal. Bon, effectivement, on a réussi à récupérer Cheikh Mohamed Ben Khalifa, que l'on a maintenant avec nous à l'antenne. Salamu alaikum, akhi Cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
Marhaban. Donc, nous étions en train d'aborder la question, justement, Philippe, notre animateur préféré de l'émission qui s'appelle donc à votre spiritualité, que l'on anime tous les jeudis matins de 9h à 10h, et nous parler de ce boucher. Comment faire confiance aujourd'hui au boucher qui nous vend de la viande?
D'accord. Je vais intervenir là, c'est bon?
Oui, bien sûr, on vous écoute. Tout le monde vous écoute là, sur
D'accord.
BFM.
Si, dans le contexte où on vit, la plupart, dans la communauté, il y a la confiance qui règne. Il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de fraude. Dans ce cas-là, le cas que vous évoquiez, c'est-à-dire acheter chez le boucher et faire confiance au boucher, je suis totalement d'accord avec vous. Mais on vit dans un environnement totalement contraire à ça, dans un environnement de la fraude
est monnaie courante.
Voilà, donc le fait de seulement acheter chez le boucher et faire confiance au boucher n'est plus valable. Il y a des savants musulmans qui ont évoqué ça clairement depuis que j'étais en HMT. C'est plus valable, c'est plus une raison valable pour le consommateur musulman de se fier à la parole du boucher.
Alors qu'est-ce que ça veut dire la HNT? Vous avez dit la HNT, ça veut dire quoi?
Non, la HMC, l'organisme anglais dans lequel j'étais.
Ah oui, oui. Alors parce que nous, on n'a pas évoqué cette HMT. Qu'est-ce que c'est que HMT donc?
La HMC, Halal Monitoring Committee.
D'accord. Donc c'est aujourd'hui l'organisme qui estampille la viande halal dans le Royaume-Uni.
C'est ça, c'est l'organisme de référence au Royaume-Uni depuis 2003, depuis que je l'ai fondé.
Machallah. D'accord. Et donc, vous disiez...
Donc, c'est pour ça que la confiance du boucher, mais le boucher, il peut être, il peut être correct, il peut être droit, il peut ne pas mentir, mais il ne sait pas ce qu'il y a au bout de la chaîne. Et c'est pour ça que le fait de se acheter, c'est-à-dire sur la parole du boucher, ce n'est plus valable. C'est un argument non valable pour moi et pour certains juristes musulmans.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, un consommateur lambda qui vous écoute là aujourd'hui, que doit-il faire pour s'assurer qu'il mange de la viande halal? Voilà. Donc, il va passer chez son boucher, il fait quoi alors?
Normalement, le consommateur doit lui-même aller vérifier, mais alhamdoulilah, il y a des organismes qui font le travail à leur place. et qui font du vrai, c'est-à-dire du vrai, de la vraie certification, c'est-à-dire qu'ils sont présents depuis l'abattage et ce jusqu'à l'emballage, avec une présence physique de contrôleurs qui s'assurent bien que l'abattage est fait par des musulmans pratiquants, qui s'assurent bien qu'il n'y a pas d'électronarcose ou d'assommage ni avant l'abattage ni après l'abattage, et qu'à la fin le produit arrive chez le consommateur et est estampillé halal, certifié avec justement.
Alors justement, cher, on sait que la réalité aujourd'hui, c'est que ça n'est pas binaire, ou est-ce qu'on est certain que c'est halal ou certain que c'est haram. La réalité, c'est que le doute ce qui est le plus répandu, et que entre une manière d'estampiller et de contrôler la viande chez un organisme par rapport à un autre est différent, et qui rend plus ou moins sûr ou plutôt douteux, au contraire, le caractère halal de sa viande. Par exemple, je vais citer la viande certifiée par Evry Courcouronnes. Aujourd'hui, on sait bien qu'ils n'ont aucun contrôleur qui certifie la viande qu'elle est halal. C'est le producteur lui-même qui signe un contrat moral dans lequel il s'engage à fabriquer ou à distribuer de la viande halal, mais on n'a aucun contrôleur externe désintéressé, ce qu'on appelle qui n'a pas d'intention personnelle. On n'a pas la SFCVH, la Société Française de Contrôle de la Viande Halal, qui est soi-disant l'organisme de la mosquée de Paris, elle aussi nous dit qu'elle a très peu de contrôleurs qui certifient que la viande est halal. Par contre, on en a d'autres tels que AVS ou Shahada, qui eux sont beaucoup plus rigoureux et contrôlent plus la viande. Moi, j'ai pas de problème, pas de scrupule à évoquer et citer des noms de sociétés. Comment faire alors concrètement sur le terrain? Moi, j'ai une viande estampillée AVS, j'en ai une autre qui est estampillée SFCVH, j'en ai une autre qui est estampillée Evry Courcouronnes, une autre Shahada. Je fais comment, moi, pour choisir ma viande, Sted?
Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous savez que l'adoration, ce qu'on fait là, tout est basé sur l'une des conditions majeures de l'acceptation de nos actes religieux, c'est la viande, c'est ce qu'on consomme, et c'est l'argent qu'on gagne. Il faut que exactement. Donc, alhamdoulilah, ces organismes font le travail pour nous. On connaît leur cahier des charges. On choisit les plus rigoureux, ceux avec un cahier des charges transparent et qui font du travail et qui est du vrai travail sur terrain. C'est à travers eux qu'on va acheter, qu'on va choisir nos viandes chez le boucher. Si SFCVH ou si la mosquée de Courcouronnes, on connaît leur cahier des charges. On sait très bien qu'ils acceptent l'abattage avec assommage, l'abattage avec électronarcose, qu'il n'y a pas de contrôle, etc., etc. Pourquoi allons-nous acheter des viandes certifiées par ces organismes?
D'accord.
Pourquoi allons-nous risquer notre foi en allant acheter à partir de ces organismes-là?
Oui, parce qu'on sait que le risque, c'est que nos prières ne soient pas exaucées, puisqu'on sait que dans le hadith qui est authentique, il nous dit que les prières de celui qui ne mange pas halal n'est pas exaucée. وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Et que toute chair qui a été nourrie par du haram est plus à même à être vouée à l'enfer, comme le dit le hadith. Donc on doit être soucieux de consommer de la viande halal. Mais comment faire? Comment faire? Aujourd'hui, on fait quoi? On choisit quoi?
On choisit les organismes comme AVS, comme Shahada, comme Taqwa, Halal Service, eux achetés, je le dis haut et fort. Mais voilà, nous, on est là, ça fait des dizaines d'années. On fait un travail qui est pas facile, mais...
Attendez, juste pour que le consommateur comprenne, l'auditeur, qui est auditeur, auditrice de Beurre FM, qui sont des consommateurs de viande halal, vous avez cité un certain nombre de marques d'estampillage, halal, AVS, etc. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces organismes, qu'est-ce qu'ils font de plus, eux, que Evry Courcouronnes ne fait pas, ou que la SFCVH ne fait pas? Qu'est-ce qu'ils font pour que les gens comprennent?
Ils ont un cahier des charges beaucoup plus rigoureux.
C'est-à-dire
qu'ils acceptent seulement des viandes qui ont été abattues sans électronarcose.
Là, vous parlez de la volaille, puisque l'électronarcose, ça ne concerne que la volaille, on est d'accord.
Oui, mais il y a aussi l'assommage par rapport aux viandes rouges. Donc, ils acceptent ni l'assommage, ni l'électronarcose. Donc, automatiquement, on a cette garantie-là que, là, bon, il y a des divergences, mais il y a beaucoup de cas, l'animal meurt durant l'assommage, durant l'électronarcose. Mmh. Et ça, il ne faut pas tolérer. Et ces organismes qui ont ce cahier des charges, justement, on devrait leur confier notre confiance. on devrait aller chercher chez le boucher des viandes contrôlées par ces organismes.
Oui, mais s'ils se réfèrent à des fatwas qui disent que si un pourcentage infime de ces bêtes-là meurt pendant l'électronarcose, pendant l'assommage, eh bien, ne rend pas invalide tout le lot de viande. Comment on fait si ce genre de fatwa?
Oui, il y aurait certains savants qui ont évoqué ces fatwas, ils ont décidé comme ça, comme quoi s'il y avait une infime partie d'animal, c'est-à-dire de non halal mélangé à du halal, mais ça, c'est pas la majorité. La majorité, elle dit le contraire. Il y a beaucoup de chouyour, il y a beaucoup de ulama qui disent que si par exemple il y a un poulet qui meurt sur 1000 poulets qui sortent à la fin de la chaîne, les 1000 poulets sont haram. Les 1000 poulets, parce qu'on peut pas le tester. On peut pas savoir quel poulet est mort avant l'abattage.
D'accord. Barakallahu fik. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh. Barakallahu fik pour votre participation et vos éclairages. Allah yajazikoum bi khair. C'est très pertinent. On vous réinvitera, Inch'Allah, sur le plateau directement. Ça sera, à mon avis, plus pertinent de faire une émission complète sur cette question-là qui est très, très importante.
Et il faudrait aussi évoquer durant l'émission, Inch'Allah, dans le futur, le bien-être animal, parce qu'apparemment il y a certains lobbies qui sont en train de se manifester, de s'acharner contre l'abattage rituel sans électronarcose, soi-disant l'animal souffre, etc. Alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Je pense qu'il faudrait avoir un autre débat dédié.
Oui, d'accord, Inch'Allah, animal. D'accord. On va faire comme ça, Inch'Allah. On va essayer d'organiser ça, on va essayer de trouver un créneau qui arrange tout le monde pour qu'on puisse vous avoir sur le plateau et qu'on parle de cette question de la manière d'abattre l'animal dans des qu'est-ce qu'elle est la manière la moins douloureuse pour l'animal. Voilà, on s'arrête là.
Merci d'avoir été avec nous et dans un instant, Imam Abdelali, vous nous raconterez l'histoire d'un verset. Aujourd'hui, c'est la sourate El Hadj, versets 36 et 37.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Imam Abdelali, vous pourrez vous répondre aux questions des auditeurs dans un instant au 01 53 48 3000. Vous pouvez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali. Mais avant cela, vous évoquez l'histoire d'un verset, donc Sourate El Hadj, versets 36 et 37, Imam Abdelali.
Alors permettez-moi de le réciter si vous le souhaitez. Et puis je pense que, Inch'Allah, on va apprécier la lecture en arabe et puis après avec une petite traduction. Dieu dans le Coran dit dans Sourate El Hadj, Inch'Allah, versets 26 et 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prête à être immolée. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en les besogneux, discrets et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint, c'est de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. pour vous avoir mis sur le droit chemin et énonce la bonne nouvelle aux bienveillants. Voilà, donc ce verset du Coran évoque effectivement le sens de ce qu'on appelle le rite du nosouk, de l'abattage, de la dabiha, de l'udhiya, hein, on dit Eid al-Adha, la fête du sacrifice, le sacrifice qui consiste à donc égorger, immoler un animal pour soit consommer sa totalité ou une partie et distribuer le reste aux pauvres. Donc à partir de là, les règles sont claires et les intentions aussi sont claires. Puisque quand on immole un animal, c'est un acte d'adoration qu'on met en œuvre. C'est pour cela que quand je discutais avec Cheikh Mohammed Ben Khalifa et qu'on évoquait la question de la scie qui tuait l'animal, tu vois, directement, il disait même si l'objectif a été réalisé, qui est de sectionner les deux veines jugulaires et que l'animal meurt par hémorragie, eh bien il faut la main de l'homme, lui il disait, hein, c'est lui qui disait ça tout à l'heure, il faut la main de l'homme. Parce que c'est un rite religieux. Il y a une notion de spiritualité dans la démarche d'immoler un animal, et que c'est seulement cet animal égorgé avec cette intention spirituelle de sacrifier un animal pour Allah que elle devient halal et pas autrement. Bien sûr, on peut en débattre hein, de la question, mais en tout cas, Dieu, en tout cas, dans ce verset-là, il met en œuvre, il met justement en évidence cet aspect-là, cette dimension spirituelle, puisqu'il dit ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Alors, l'objectif, ce n'est pas simplement de faire couler du sang, ni de découper de la viande. Il s'agit vraiment d'atteindre Allah par la piété de l'acte, de la dimension spirituelle, et donc qu'entreprend celui qui immole l'animal, il dit, moi, je le fais au nom d'Allah Azzawajal parce que c'est un don et c'est un bienfait. C'est une manière de remercier Allah Azzawajal. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, où le prophète donc anna jama'atan min al-muslimin kanu qad hammu an yaf'alu bi dhaba'ihim fi 'ala ahl al-jahiliya. Un jour un groupe de musulmans à l'époque du prophète ont voulu mettre en œuvre les rites que pratiquaient les gens avant l'avènement de l'islam. Qu'est-ce que faisaient les gens avant l'avènement de l'islam? Quand ils égorgeaient un animal, ils suspendaient l'animal à côté de la Kaaba et le sang qui coulait, éclaboussait la Kaaba avec le sang de l'animal pour soi-disant obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Donc Dieu a dit, ce n'est pas le sang ni la chair qui est important. Donc ce n'est pas la peine de faire ce genre de rite qui est stupide, que de fait de suspendre l'animal à côté de la Kaaba et de d'arroser la Kaaba et le tissu de la Kaaba avec le sang de l'animal. Mais l'important, c'est votre intention. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous êtes dans une démarche de remerciement et dans une démarche d'adoration et surtout d'unicité d'Allah Azza wa Jalla, puisque vous le dites au nom d'Allah seul, bismillah et wahdahu, yani j'égorge et j'immole cet animal et pour remercier que c'est seul Dieu qui en est à l'origine de ce bienfait. Donc à partir de là, c'est cette pratique-là, le prophète alayhi salam qui a vu ses compagnons vouloir pratiquer ce rite anté-islamique, c'est-à-dire avant l'avènement de ce qu'on appelle min ahl al-jahiliya, حيث كانوا يقطعون لحومها وينشرونها حول الكعبة وينضحون على الكعبة من دمائها فلما أسلموا وعزموا على ذلك نزلت الآية الكريمة تزجرهم عن هذا الفعل وترشدهم إلى ما هو أجدر بهم وأليق. Donc là, ce verset-là a été révélé pour lui dire non, ne faites pas cela. Dieu ne souhaite pas que vous fassiez cette pratique-là ancestrale qui émane de vos prédécesseurs, car c'est une pratique qui n'a aucun sens, puisque l'important, c'est l'acte spirituel, et il est inutile de souiller la Kaaba avec du sang impur, puisque le sang qui coule de l'animal qui est répandu n'est pas pur, il est najasa. Donc il n'est pas recevable qu'au nom de Dieu, au nom d'un sacrifice que l'on a accompli, de souiller la Kaaba avec du sang impur. Donc voilà la cause pourquoi ce verset a été révélé, puisque Dieu est dans le Coran, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Donc c'est l'acte spirituel, on immole l'animal, on évacue le sang, on le jette, on n'en consomme rien puisque le sang est impur. Le sang qui est évacué, ce qu'on appelle le dam al-masfouh, qui sort de l'animal par hémorragie externe, est impur à la consommation. C'est pour cela que même après avoir terminé d'égorger l'animal, on doit nettoyer le cou de l'animal, on doit nettoyer les parties qui ont été souillées par le sang qui a été évacué par la gorge de l'animal, et si une partie de ses pattes, et on doit là aussi nettoyer parce que ce sont des parties qui ont été souillées par du sang impur. Je répète et je rappelle que le sang qui coule d'un animal ou même d'un être humain est impur. Hein, c'est najasa, c'est une impureté qui invalide la prière et qui invalide même la consommation de cette nourriture-là, même de cette boisson. Par exemple, si un seau d'eau, il y a du sang qui est tombé dedans, ben, l'eau est souillée par l'impureté, elle est inutilisable ni pour se purifier, ni même pour être consommée. Voilà en gros les explications des exégètes et des historiens musulmans concernant ce verset 36 et 37 de Sourate Al-Hajj, la Sourate, le pèlerinage, qui est effectivement d'actualité, puisque nous allons bientôt, Philippe, vous laisser partir. Mais la prochaine fois, je te lâche pas. La prochaine fois, Philippe, je te prends avec moi.
Ah non.
Je te chope, tu pars avec moi à la Mecque, Inch'Allah.
Non,
hein, je prends un témoin, tous les auditeurs, auditrices. La prochaine fois, Philippe, il vient avec moi avec Inch'Allah.
Tiens, alors, par contre, pour ceux, Imam Abdelali, qui veulent accomplir le grand pèlerinage, le Hajj, cette année, les inscriptions seront
on démarré close partout dans toutes les agences, ouais. les inscriptions ont démarré, puisque effectivement, comme tu le dis, les inscriptions seront closes deux jours avant le début du Ramadan, c'est-à-dire fin avril, les inscriptions sont closes. Il n'est plus question de venir s'inscrire maintenant deux semaines ou trois semaines avant le début du pèlerinage. Je rappelle que le pèlerinage débute, les gens commencent à partir dès la mi-juillet. Donc si quelqu'un vient s'inscrire au début du mois de juillet, c'est pas la peine, c'est mort. Donc ceux qui ont envie, l'intention de faire le pèlerinage,
cette année,
n'hésitez pas, prenez vos dispositions, prenez prenez de l'avance et appelez l'agence, ou appelez-moi, parce que moi je l'organise aussi, pour vous inscrire pour partir. Hein, il n'est pas nécessaire de donner une avance d'argent. Vous pouvez au moins déposer le passeport, déposer les pièces d'identité nécessaires, la photo d'identité, etc. Notamment le vaccin aussi. Il y a un vaccin nécessaire à fournir qu'on appelle le vaccin de la méningite, indispensable à l'obtention du visa, je le rappelle.
Oui, et donc il faut faire le vaccin avant de déposer la demande de visa.
Voilà, c'est ça. Donc on doit fournir carnet de vaccination international homologué OMS, Organisation Mondiale de la Santé, dans lequel est inscrit le nom du vaccin, tamponné par le médecin, et avec la petite vignette qui était sur la capsule, hein, pour te dire où il y a le numéro du lot de vaccins concernés, et qui prouve bien que ce n'est pas un faux document, parce qu'ils sont très rigoureux. Vous avez même par exemple pour les cartes de séjour ou les livrets de famille, pour prouver que la personne a bien un lien de famille avec la dame qui souhaite partir au pèlerinage, qui a moins de 45 ans et qui est obligée d'être accompagnée par un mahram, eh bien doit fournir l'original du livret de famille, l'original de la carte de séjour pour ceux qui ont un passeport non français, et bien sûr le passeport original, tout doit être original. Donc faites attention, assurez-vous que le passeport soit valide pendant encore au moins 6 mois après la date du retour, donc là un an à partir de maintenant, pour pouvoir participer qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Après avoir tout payé, réservé, on constate que le passeport n'est pas valide ou que la carte de séjour est bientôt périmée. Donc tout ça doit être pris avec beaucoup de sérieux pour s'assurer de faire un voyage sans mauvaise surprise. Donc ceux qui souhaitent participer avec moi, ils peuvent.
Ça coûte combien?
Ça dépend. Il y a des.
En gros.
Il y a des
quelqu'un
produits.
Quelqu'un qui veut aller au Hajj cette année, c'est combien?
Il y a des. Il y a
des questions que les gens posent.
Il y a des prestations bas de gamme économiques qui sont à peu près à 4 000 euros. Où vous êtes très loin du haram, vous êtes à l'Aziziyah, vous êtes à perpète de la haram pendant tout le séjour, où vous êtes même pas avec de la pension, ni petit déjeuner, ni rien du tout au niveau nourriture, vous devez vous débrouiller tout seul. On peut avoir des choses à 3 800 ou 4 000 euros à bas de gamme. Et peut avoir des trucs très haut de gamme, avec suite qui donne avec vue sur le haram, chambre individuelle, etc. Ce qui a plus de 10 000 euros, Philippe, ou même 12 000 euros. On peut avoir des grands hôtels. Le Marriott, le Hyatt Regency, le Movenpick, etc., etc. Ces grands hôtels 5 étoiles qui peuvent vous fournir des suites résidentielles, eh bien, peuvent coûter jusqu'à 12 000 euros. Mais moi, un produit moyen, raisonnable et qui n'entache pas la dimension spirituelle de votre voyage, puisque là, on est vraiment dans le gaspillage, celui qui va pour aller louer une chambre individuelle, sauf s'il a une raison valable. Eh bien, il est mieux. Le mieux, c'est d'accepter d'être avec d'autres personnes dans la chambre. En moyenne, c'est 4 personnes. Et le prix est autour de 5 500 jusqu'à 6 000 euros pour avoir un produit confortable avec demi-pension et avoir une prestation de service lors du circuit aussi, parce qu'il y a le circuit dans lequel, quand on va à Minan, à Arafat, à Muzdalifa, tout ça, il faut aussi avoir la nourriture, qu'il y ait des traiteurs qui viennent nous apporter la nourriture, parce qu'on ne peut pas se donner le temps d'aller sortir et d'aller chercher à manger. Il n'y a pas d'abord. Puisqu'aujourd'hui, utiliser des gaz sur place est strictement interdit à cause justement de l'incendie qui a eu lieu dans les années 90, qui a provoqué la mort de plus de 30 000 personnes. Depuis cette date-là, le fait de cuisiner là-bas sur place est strictement interdit. Donc, on a des traiteurs qui nous fournissent et qui donc incluent dans le prix du forfait. Vous n'avez rien à payer. Vous êtes nourri, logé, blanchi pendant tout le voyage. Pendant le circuit, vous êtes en pension complète. Petit déjeuner, déjeuner, dîner à Minan, à Arafat, à Mouzdalifa. Le moment où vous êtes revenu à Minan, vous séjournez à Minan les deux jours qui restent ou trois jours qui restent après l'Aïd. Voilà tout cela. Et après, bien sûr, quand vous allez vous installer dans les hôtels 5 étoiles à Mecca ou à Médine, on est dans un tarif autour de 5 500 à 6 000. Voilà.
Et ça dure combien de jours?
Ça dure environ séjour court est de 15 jours, le séjour moyen est de 21 jours, donc de 3 semaines, et t'as des longs séjours qui peuvent durer jusqu'à un mois complet. Alors moi, par exemple, mon produit, ma prestation est de 24 jours, donc c'est du 4 août au 28 août, inshallah. Ceux qui souhaitent venir avec moi pour le grand Hajj cette année, ils peuvent m'appeler au 06 29 25 35 00, je répète. Le 06 29 25 35 00. Je répète qu'il reste encore 2-3 places, mais vraiment c'est possible encore de venir avec moi à la Omra du mois de février, du 23 février au 8 mars. Ceux qui souhaitent venir, inshallah, vous êtes les bienvenus, avec un combiné avec la Turquie, inshallah. Donc vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Une dernière chose. Aussi, les Hajj par délégation ou les Umrah par délégation, pour ceux qui ont une personne qui voudrait faire une sadaqa, nous avons des étudiants qui peuvent assurer la prestation du Hajj ou de la Umrah par délégation. Donc là aussi, vous m'appelez sur le numéro que je vous ai donné.
Voilà, Imam Abdelali, on vous retrouve la semaine prochaine et demain, c'est Maître Serran qui sera à cette même place. Très belle journée sur Beurre FM.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.